France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, à l'occasion de ses 350 ans, l'Opéra de Paris se penche sur son passé et, en particulier, le premier siècle de son histoire. C'est alors que, sous la régence d'Anne d'Autriche, les Français découvrent l'opéra, un genre encore nouveau, né en Italie, au début du XVIIe siècle. L'opéra en France, l'opéra français, face ou contre l'opéra italien, l'opéra projet artistique, mais aussi instrument politique, c'est cette étrange relation musicale entre la France et l'Italie qui fait l'objet d'une superbe exposition organisée conjointement par l'Opéra de Paris et la Bibliothèque nationale de France. Exposition qui se tient jusqu'au 1er septembre à la Bibliothèque Musée de l'Opéra Garnier et dont France Musique est partenaire. Pour nous parler et présenter de cette exposition et présenter ce catalogue, je reçois aujourd'hui Jean-Michel Vinciguerra. Hugo Rennes à la tête de la Symphonie du Marais, c'était l'ouverture du premier acte de Pomone de Robert Cambert. Bonjour Jean-Michel Vinciguerra.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous êtes bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France et un des commissaires de cette exposition qui s'intitule « Un air d'Italie, l'opéra de Paris, de Louis XIV à la Révolution ». Et donc un des auteurs de ce livre, de ce catalogue qui accompagne cette exposition, coédité par BNF Éditions et la Réunion des musées nationaux. Alors là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait donc de Pomone, 1671, de Robert Cambert, donc vraiment le premier opéra français dont on a gardé en plus la trace, même si la partition n'est pas complète. Mais avant que les Français se mettent à composer de l'opéra dans ces années 1660-1670, ils l'ont d'abord découvert comme un genre importé d'Italie, et ce en 1645 par Mazarin, qui fait venir donc la Finta Pazza de Sacrati. Quel était le projet de Mazarin, donc italien, qui connaissait évidemment depuis Rome l'opéra italien? Quel était son projet? Pourquoi faire venir en France ce spectacle d'un genre totalement nouveau pour les Français?
En fait, Mazarin voulait faire la promotion du spectacle italien, dont il avait suivi les développements lorsqu'il était à la cour des Barberini à Rome.
À Rome, ouais.
Et il voulait offrir aux Français ce qu'il y avait de meilleur dans son pays. Donc c'était pas du tout quelqu'un qui était arc-bouté sur ses traditions nationales, mais quelqu'un qui voulait en fait présenter, offrir aux Français vraiment le meilleur de ce que l'Italie avait produit en termes de réalisation musicale.
Donc un spectacle complet qui mêlait le faste de la mise en scène avec des décorateurs, des architectes, des effets spéciaux, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui étaient inconnus des Français.
Tout à fait, parce que lorsque la Finta Pazza a été présentée à la cour en 1645 dans le théâtre du Petit Bourbon.
Théâtre qui aujourd'hui a disparu, qui se situe
tout
entre le Louvre et
qui
l'église.
Qui se situe entre le Louvre
et Saint-Germain-l'Auxerrois.
C'est ça. Mazarin avait fait venir aussi Giacomo Torelli, qui était un ingénieur de la scène, un architecte, qui avait produit les décors de la Finta Pazza, opéra d'abord présenté à Venise en 1641. Et les décors à vue que Torelli avait mis au point et avait vraiment provoqué un émerveillement scénique. Et en fait, ce que les Français avaient découvert pour la première fois, c'était ces personnages qui descendaient des cintres du théâtre sur des chars et qui parfois s'élevaient aussi dans les airs. Et ça, c'était tout à fait inconnu
ouais.
À l'époque.
En fait, c'est plus l'œil que l'oreille qui a été séduit par cette première de l'opéra italien en France. Mais à la même époque, les Français donc découvrent l'opéra, donc c'est-à-dire qu'évidemment ils ne connaissaient pas, et ils étaient davantage habitués à des spectacles chorégraphiques plutôt que lyriques.
Tout à fait, parce que le ballet de cour avait une longue tradition derrière lui. Sous Louis XIII, il s'était considérablement développé, et bien sûr Louis XIV y avait apporté ses lettres de noblesse en dansant lui-même.
Louis XIII et Louis XIV dansaient tous les deux, d'ailleurs.
Ils dansaient tous les deux, et Louis XIII écrivait de la musique aussi, était un compositeur et l'un des rois les plus mélomanes de l'histoire de France.
Ouais. Et alors, en quelques mots, qu'est-ce qui distinguait cet opéra italien du ballet de cour français ?
Eh bien, la différence se faisait au niveau des costumes, parce que pour les ballets de cour, c'était pas toujours facile de mobiliser des machines. Évidemment, Torelli avait apporté son concours dans les années 1650 après la Finta Pazza, pour le Ballet Royal de la Nuit, par exemple. Mais en fait, on concentrait l'attention du public sur la richesse de l'habit, sur l'habit de danse et sur la richesse des costumes. Et
est-ce que les sujets différaient ou ils pouvaient être
non, ça pouvait être vraiment des sujets identiques. Dans le ballet de cour, il y avait un mélange des registres. Il pouvait y avoir des registres comiques, exotiques. Il pouvait y avoir de la chevalerie. Voilà.
Et c'était plutôt la noblesse qui se mettait en scène dans le ballet de cour.
Ah oui, tout à fait. C'était les personnages, les grands seigneurs de la cour, les dames de la cour.
Ouais, et non pas une troupe de
non,
musiciens,
voilà,
d'artistes.
La troupe d'artistes, c'est arrivé après avec l'Opéra de Paris.
Agnès Mellon dans le rôle d'Orfeo, Les Arts Florissants dirigés par William Christie. C'était le début du troisième acte d'Orfeo de Luigi Rossi. Jean-Michel Vinci Guerra, Orfeo 1647. On a évoqué précédemment la Finta Pazza 1645. Vous nous l'avez rappelé, c'est un spectacle qui avait été créé auparavant à Venise en 1641. Donc là, c'est un spectacle, cet Orfeo, spécialement composé pour Paris, créé à Paris.
Absolument.
Donc c'est une commande de
Mazarin.
De Mazarin.
Tout à fait.
D'accord.
Il avait chargé l'abbé Bouty, qui était son secrétaire, de rédiger le livret. Mm-hmm. Et bien sûr, il fallait renouveler le succès de la Finta Pazza. Et donc il s'était entouré de Torelli pour la réalisation des décors et des machines.
Alors, est-ce que le spectacle a ébloui tout autant les spectateurs? Est-ce que la musique a été bien reçue? Comment est-ce que un spectacle en langue étrangère a-t-il été perçu à ce moment-là?
Eh bien, c'est ça le problème, c'est que effectivement, il y avait toujours cet éblouissement des machines, de la scène, mais les premières critiques ont commencé à fuser parce que l'Orfeo était un opéra beaucoup plus long que la Finta Pazza. Et pointer déjà le problème de l'intelligibilité de la langue. Et c'est vraiment là-dessus que se sont concentrés les critiques de l'opéra italien, parce que ils considéraient que c'était un spectacle d'une longueur qui excédait la patience française, et surtout ils trouvaient absolument incompréhensibles ces histoires. Et c'est de là qu'est parti après les premières expérimentations et les premiers essais d'opéra en français.
D'accord.
Parce qu'il fallait surmonter l'obstacle de la langue réputée inintelligible.
Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, Jean-Michel Vinci Guerra, que la polémique a commencé à se développer et que pendant toute la fin du XVIIe et puis au XVIIIe siècle, les deux musiques françaises et italiennes se sont opposées. Il y a quelques écrits fameux qui mettaient en regard et en prenant parti pour tel ou tel côté des Alpes. Est-ce que c'est à ce moment-là que se sont un peu opposés les deux répertoires avant de s'enrichir mutuellement?
C'est ça. Alors après, effectivement, avec la naissance de l'opéra français, on va essayer de faire fusionner l'opéra italien et le ballet de cour pour produire un art national tout à fait nouveau. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu les deux tendances. Et ce qui était considéré comme la spécificité de l'opéra italien, c'était la virtuosité. Mmh. Et l'opposition entre les airs virtuoses et le récitatif ou progrès et l'action. Alors que dans l'opéra français, tel qu'il s'est développé plus tard, on a essayé donc d'associer le texte parlé, le texte déclamé et la musique, pour que la musique souligne la beauté du texte.
Sans oublier, bien sûr, parce que nous sommes en France, les épisodes chorégraphiques.
Tout à fait.
Ouais. Et alors, on a écouté en introduction un extrait de Pomone, donc de Cambert et Perrin, le librettiste. C'était pas leur premier essai. Il y avait auparavant la pastorale d'ici qui a séduit quand même jusqu'au roi. Donc ce nouveau genre de musique entièrement en français. Et donc la naissance de l'opéra de Paris 1669, c'est ça alors?
C'est ça, c'est-à-dire que dès 1659, avec la pastorale d'ici, Cambert, musicien, et Perrin,
le librettiste,
poète, voilà, s'étaient associés pour produire ce qu'ils ont appelé leur première comédie en musique et en vers français.
Et en vers français, oui.
Qui avait été donnée dans le jardin, dans les appartements de l'orfèvre du roi, à Issy, d'où son nom. Et il y avait, dit-on, des carrosses qui venaient tous les soirs et tout un public friand qui assiste.
L'attrait de la nouveauté, là.
C'est ça, l'attrait de la nouveauté. Si bien que le roi, curieux de son succès, l'avait réclamé et elle avait été donnée à Vincennes, à la cour. Et on est en 1659. En 1661, Mazarin meurt et Colbert, son successeur, essaye d'orienter la production et la création vers quelque chose de plus national.
Et donc, peut-être aussi moins coûteux, non?
Et de moins coûteux. Parce qu'effectivement, le problème de l'Orfeo, c'est que les dépenses avaient été jugées excessives, exorbitantes, dans un contexte où la France était en proie à une grave crise économique. Et donc, c'est pour ça que les deux hommes vont poursuivre dans leur voie. Ils vont être encouragés par Colbert. En 1667, Perrin adresse à Colbert son recueil d'œuvres manuscrites. Et dans la propos de ces œuvres manuscrites, il forme pour la première fois l'idée d'une académie de musique et de poésie, en disant que ça serait un avantage glorieux pour la nation. Colbert entend ça et en 1669, il signe avec Louis XIV les fameuses lettres patentes par lesquelles il va leur accorder à lui, enfin, et à Colbert un privilège d'opéra.
Heather Newhouse dans le rôle de Céphise, les nouveaux caractères, dirigé par Sébastien Dérin. C'était un extrait de l'Europe galante, sa première entrée très précisément intitulée La France, d'André Campra, une composition de 1697. Jean-Michel Vinciguerra, vous avez parlé du privilège accordé à Perrin en 1669, donc qui marque l'acte de naissance en fait hein, de l'Opéra de Paris. C'est pour ça qu'on fête cette année les 350 ans de la maison. Privilège, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors, privilège, ça signifie monopole des représentations chantées.
Mmh. C'est-à-dire qu'aucun autre théâtre ne peut représenter des opéras.
Voilà, sous peine d'être, sous peine de recevoir une amende et sanctionné et qu'on lui confisque ses machines et ses instruments. Donc en fait, le privilège, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que Perrin, lorsqu'il reçoit ce privilège, il sait qu'il va pouvoir être seul maître à bord de l'opéra français et qu'il n'aura pas de concurrent. Et ce qui est intéressant quand on se penche sur cet acte de naissance, comme vous dites, de l'opéra de Paris, que sont les fameuses lettres patentes, c'est les références nombreuses à l'Italie. On dit que le théâtre d'opéra doit être établi sur l'imitation des théâtres italiens. Mais quand on connaît la vie musicale en Italie, à Venise, à Rome, on sait qu'il n'existait pas un seul théâtre, mais plusieurs qui étaient en concurrence les uns avec les autres. Donc,
qui étaient des affaires privées d'ailleurs.
Tout à fait, aux mains d'entrepreneurs privés, d'entrepreneurs de spectacle, qui devait tout faire pour dégager des recettes. Et là, en fait, comme l'État ne donnait pas d'argent à Perrin pour exercer ses missions, eh bien, ce privilège lui permettait d'avoir la garantie qu'il n'y aurait pas de concurrent et qu'il ne serait pas gêné dans son entreprise.
Mmh. Et de ce privilège, Lully en fera usage.
Ah oui,
on le sait. Ça
et alors que oui, et un usage beaucoup plus redoutable, ouais. Parce que Perrin avait un privilège d'opéra pour une durée de 12 ans, limité donc au royaume, à l'exception de la cour, mais lorsque Lully lui rachète son privilège d'opéra en 1672, parce que Perrin
a fait faillite,
s'est endetté et est en prison, il réussit donc à révoquer les lettres patentes en sa faveur et
ouais,
surtout
ouais.
À avoir un privilège à vie et pour ses descendants.
Mmh.
Et ce privilège justement exorbitant a été l'occasion de critiquer l'emprise de ce surintendant de la musique
bien
tout
sûr.
Puissant.
Ouais, ouais. Et alors, Jean-Michel Vinciguerra, on a écouté un extrait de l'Europe galante de Campral, donc on est plus tard, je dis 1697. C'est ce qu'on appelle un opéra-ballet, c'est ça?
Oui, alors l'opéra-ballet, la dénomination est plus tardive, parce qu'à l'époque, on appelait ça des opéras, des ballets entrées, pardon. C'est la dénomination que la postérité a reconnue. Mais effectivement, c'est un genre nouveau qui éclot après la mort de Lully, puisque Lully, c'est vrai, avait réussi à créer une forme nouvelle qui était la tragédie en musique, qui avait eu un grand succès de son temps. Mm-hmm. Mais après sa mort, les tragédies ne font plus recette à l'opéra. Et il faut inventer et se tourner vers une autre forme de spectacle. Et là, la musique va devenir beaucoup plus présente à travers des entrées dansées dans les actes des opéras. Et c'est Campra qui va être le principal, qui va s'illustrer vraiment
dans ce genre.
Dans ce genre, ouais. Tout à fait.
Thank you.
Gustave Léonhardt à la tête de l'orchestre du siècle des Lumières, c'était un extrait des Paladins, l'air pour les pagodes de Jean-Philippe Rameau. Jean-Michel Vinciguerra, Rameau, comme Gluck, Lully ou d'Auvergne, figure parmi les compositeurs qui sont représentés durant cette exposition. Un air d'Italie, l'opéra de Paris de Louis XIV à la Révolution, et également bien sûr dans le catalogue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors il y a aussi des costumes, des partitions, des maquettes de décors.
Alors on voit beaucoup un seul costume de danseur, super, ouais. Mais qui est unique dans les collections nationales. Fait, ouais. Pour un ballet donné à la cour. On voit bien sûr un portrait de Marthe Lerochois, une des premières cantatrices de l'opéra star à l'époque, que Christophe Rousset nous a gentiment prêté. Ouais. On voit des partitions autographes. On écoutait là les Paladins, il y a la partition des Paladins parce que Rameau est considéré comme ayant
hérité de toute cette histoire.
De toute cette histoire et ayant essayé une synthèse de l'opéra italien et l'opéra français dans cette ouvrage qui est le dernier qu'il a livré pour l'Académie royale de musique. On verra également des maquettes de costumes, des projets de décors, des partitions chorégraphiques, absolument tout à fait.
Oui. Et c'est vrai que le parcours est chronologique, il faut le rappeler, donc comme l'est également le catalogue. Et qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans le parcours de cette exposition, vous et les deux autres commissaires, Michael Bouffard et Christian Schirm?
Eh bien, les liens entre la France et l'Italie, parce qu'il y a des moments où la présence de l'Italie est très forte, d'autres moments où elle recule. Donc on a voulu montrer ce mouvement pendulaire qui ponctue toute l'histoire de l'Opéra de Paris sous l'Ancien Régime. Et c'est vrai qu'on évoque les origines de l'Opéra. Ensuite, le privilège, c'est de là que tout débute. Et l'exposition se termine avec la fin du privilège, puisque c'est la Révolution française qui va mettre fin au théâtre privilégié et ensuite entraîner la concurrence théâtrale que l'on connaîtra au XIXe siècle.
Et justement, à la veille de la Révolution, quelle figure a l'opéra français? Est-ce qu'il est vraiment purement national français ou il y a encore des échos de la musique italienne dans cet opéra?
Et ben, dans les dernières années, par exemple, entre 1781, date de l'incendie du Palais Royal où se trouve l'opéra à l'époque, et 1791, donc la fin du privilège, on observe qu'il y a toujours des compositeurs italiens qui viennent jouer à l'opéra de Paris, Salieri, Sacchini, Cherubini et Zingarelli, mais tous se fondent dans le moule de la tragédie lyrique. Et donc c'est un des paradoxes que ces compositeurs italiens venus de l'étranger adoptent cette forme que Lully en fait a mise au point.
Et vous ne rappeliez que à la mort de Lully, la tragédie en musique ne faisait plus recette, mais après, au XVIIIe siècle, on l'a repris et adapté, d'ailleurs, au goût du jour.
Absolument, parce que dans les années 1750, 60, 70, après en fait le départ des bouffons italiens, l'opéra s'est recentré sur son histoire, on a remis à l'honneur les anciens opéras et il s'agissait aussi de mettre en valeur les musiciens de l'orchestre, donc ils étaient réécrits, réorchestrés.
Très bien, merci beaucoup Jean-Michel Vinciguerra d'être venu nous présenter ce catalogue et cette exposition qui se tient jusqu'au 1er septembre à la bibliothèque musée de l'Opéra Garnier. Donc Un air d'Italie, l'Opéra de Paris de Louis XIV à la Révolution, catalogue coédité par BNF Éditions et la Réunion des musées nationaux. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Souad de Boukorsa, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.